Vous écoutez
RMC.
Il est 7h12 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Elle a disparu vendredi à 15h. La petite Liana est-elle encore en vie? L'enquête et les recherches se poursuivent dans le Gers. Bonjour Jacques Fonbonne, vous êtes général de gendarmerie, vous avez commandé la section de recherche d'Orléans. Merci d'être avec nous ce matin dans ce studio. Le principal suspect, Jérôme B, a été mis en examen. Il s'agit du père d'une des amies de Liana. Il réfute toujours être lié à la disparition de la petite Liana à 11 ans. Introuvable donc depuis vendredi dernier. Et l'on a appris hier soir que cet homme, Jérôme B, avait fait l'objet d'une plainte pour viol sur une fillette de 10 ans déposée en août dernier. Depuis 9 mois donc, cette plainte pour viol n'a en réalité pas vraiment été prise au sérieux. Il y a eu 54 jours pour que la brigade informe le parquet, puis encore 5 semaines pour que le dossier arrive à Auch, c'est-à-dire 3 mois rien que pour le transit administratif. Et Jérôme B n'avait jamais même été inquiété ou interrogé sur ce viol. Comment c'est possible ?
Ah ben c'est possible parce que c'est un... Alors on n'a pas tous les éléments, mais à l'exposé de ce que vous dites, c'est plus qu'un dysfonctionnement. 53 jours pour quitter la brigade, ça paraît étonnant, sauf s'il y a une enquête, et c'est une enquête criminelle, hein. Un viol c'est une infraction pour laquelle on risque 20 ans de réclusion criminelle. Il faudrait savoir s'il y a une enquête, et une enquête qui n'a rien donné, et que les gendarmes ont transmis à ce moment-là au parquet, parce que le parquet est forcément avisé, mais même le premier jour lorsqu'il y a une infraction. Ensuite, ce sont, je dirais, des délais administratifs de transmission. C'est pas une décision judiciaire qui tarde, mais c'est inadmissible.
Il s'agit pas juste d'un vol,
il s'agit
du viol d'une petite fille de 10 ans et d'un homme que l'on a laissé dans la nature depuis 9 mois. Ce qui fait dire d'ailleurs à la maman, et on a entendu dans le journal de 7h ce témoignage édifiant, ce qui fait dire à la maman de la petite fille qui a porté plainte pour viol: si la plainte contre ma fille avait été prise au sérieux, je me dis que la petite Liana serait peut-être encore tranquillement chez elle.
Oui, parce qu'il aurait été certainement condamné avec, alors depuis le mois d'août...
Au moins mis en examen.
Et pour une affaire de viol sur mineur, on peut dire avec une quasi-certitude, mis en détention.
Et cette situation, elle s'ajoute donc aux différents témoignages et à cette immense inquiétude, parce qu'elle est introuvable, Liana, depuis vendredi. C'est une course contre la montre.
Oui, toujours. Alors, quelle que soit l'affaire, c'est toujours une affaire criminelle et toujours une course contre la montre, parce que les témoignages vont devenir de plus en plus imprécis, parce que les éléments de police technique, la piste vont disparaître petit à petit. Et puis là, effectivement, comme vous le dites, Apolline, il y a le caractère particulier. Où est la petite? Est-elle encore en vie? Et comment peut-on la retrouver ou la chercher?
Comment est-ce qu'on fait pour faire parler quelqu'un qui ne veut pas parler? Jérôme B, il est donc en détention provisoire, mais depuis lundi, semble-t-il, face au procureur d'Agen, il garde le silence.
Alors, d'abord parce que c'est son droit, hein, il faut le dire, même si c'est très difficile de garder le silence, c'est un droit maintenant qui est inscrit formellement dans le code de procédure pénale. Généralement, ce sont les avocats, tant qu'ils ne disposent pas d'une substance suffisante dans le dossier d'enquête, qui disent à leur client: écoutez, taisez-vous, nous attendons d'avoir d'autres éléments, et puis ensuite on s'expliquera avec le juge d'instruction. Alors, il a donné quelques éléments en garde à vue. En garde à vue, ce genre d'affaires se traite d'une façon un peu particulière, parce que il faut d'abord arriver à cerner le profil de la personne que l'on a en face de soi, pour savoir comment il réagit, quelles sont ses valeurs, quelles sont les choses qui lui sont importantes. Moi, je disais souvent à mes enquêteurs, plus l'affaire est grave et plus on attend avant de rentrer dans les questions qui fâchent. On va parler d'un peu tout, on va voir quelles sont les choses qui ont de l'importance pour lui.
Pour le mettre quoi ? En confiance ?
Pardon.
Pour le mettre en confiance,
pour le mettre en confiance, absolument. Et puis pour que même à un moment donné, ils se disent: mais attendez, je suis là pour une affaire très grave, et puis on m'en parle pas. Et petit à petit, on va essayer de dérouler la pelote. C'est-à-dire que ce qu'il ne faut surtout pas, c'est rompre le dialogue, que la personne à un moment vous dise: écoutez, maintenant je vous dis plus rien, j'ai le droit au silence et j'attends la fin de la garde à vue, il en a pour 48.
Comme vous dites, il faut effectivement créer des circonstances pour qu'il parle. Et en même temps, on est dans une urgence vitale, puisqu'on se dit que la petite a disparu évidemment depuis vendredi. Jérôme nous appelle de Pau au 3216. Bonjour Jérôme.
Bonjour Apolline, je me mets un peu à l'écart, il y a un peu de bruit, je suis déjà au boulot. Bonjour.
Alors, et bonjour. Vous êtes au boulot, vous êtes chauffeur livreur. Oui, effectivement, oui. Mettez-vous à l'écart, vous vouliez réagir. Je crois que comme moi, vous vous êtes dit effectivement que cette plainte qui n'avait pas été prise visiblement suffisamment au sérieux, ou en tout cas avec suffisamment de rapidité, ça vous désespère.
Bah, plusieurs choses déjà, et un peu plus au sociologique, c'est-à-dire que quand tu mets quelqu'un en prison, tu le mets aussi déjà pour l'enlever de la société, mais aussi pour le protéger de lui-même. Je vais m'expliquer. Cette personne-là, donc, a fait quelque chose et est restée 9 mois dans la rue. Je veux dire, le père de la petite fille de 10 ans aurait pu, mais 1000 fois, le choper, le défoncer. Au bout d'un moment, il va falloir que la justice comprenne qu'il va falloir absolument qu'il sorte ces gens-là de la société. Sinon, il va y avoir de plus en plus de gens qui vont faire justice eux-mêmes.
Alors, Jérôme, ce que vous voulez dire, c'est que vous estimez que la colère... J'ai reçu hier la maman d'Elias, je dois vous dire, sur BFM TV, parce qu'elle a le sentiment de se heurter à un mur de la justice et à la difficulté simplement à pouvoir parler après les dysfonctionnements qui avaient conduit aussi à la mort de son fils, 14 ans, qui a été tué par 2 mineurs qui pourtant étaient connus de la justice. Et elle avait cette phrase, elle disait, moi, je viens parler ici parce que je préfère parler que de me révolter. Elle disait, le problème c'est que le mépris ou le mur de la justice entraîne une forme de colère et donc de révolte. Évidemment qu'il faut que la justice réponde, mais elle disait, j'ai encore confiance dans la justice. Si la justice nous répond, c'est évidemment à la justice de faire cela.
Je vais aller plus loin, Pauline. Je pense qu'au niveau sociologique, les gens, mais surtout hein, sur tous les sujets, les gens sont pour l'instant très attentistes jusqu'en 2027. Le prochain qui va arriver, quelle que soit sa couleur, son étiquette politique, s'il ne fait rien, je pense que même au niveau judiciaire, ça va basculer et les gens vont finir par faire de plus en plus justice eux-mêmes, car ils ne croiront absolument plus à la justice de notre pays.
Il faut que la justice soit rendue et soit rendue rapidement et qu'elle fasse son travail. C'est une évidence et on sent la colère qui gronde. Hein. Merci Jérôme évidemment pour votre témoignage. On espère bien sûr que la justice fonctionne. On a vu à certains autres moments qu'elle justice fonctionne parfaitement, mais il y a, on a l'impression, Jacques Fambonne, dans ces enquêtes, évidemment des moyens déployés qui sont considérables pour la recherche de la petite Liana. Mais c'est vrai que ça interroge, c'est-à-dire qu'on se dit, mais si des plaintes sont déposées avec des témoignages aussi forts que celui de la jeune fille de 10 ans qui a témoigné en août dernier, et que ça met autant de temps pour une sorte visiblement de problématiques d'organisation, de processus. Est-ce que c'est acceptable ?
Non, c'est pas acceptable. Comme le disait votre intervenant, à partir du moment où l'État est pas en mesure de faire appliquer la loi, le citoyen a la tentation de le faire. Mais d'un autre côté, alors ça dépasse un petit peu mon cercle de compétences, mais on a l'efficacité de la justice qu'on mérite. Lorsque Bonaparte a créé le code d'instruction criminelle en 1808, pour une population de 30 millions d'habitants complètement rurale, il y avait 3000 magistrats. Ils sont à peine 2 fois plus maintenant, avec des fonctions de magistrats qui sont évidemment complètement différentes. Il n'y avait pas de juge d'affaires matrimoniales, il n'y avait pas de juge de l'exécution. Et dans une société qui est maintenant complètement urbanisé avec des moyens de circulation qui sont évidemment pas les mêmes.
Merci beaucoup Jacques-Charles Fambonne d'avoir répondu à nos questions ce matin et de nous avoir éclairé. Ancien commandant de la section de recherche d'Orléans.